Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
Pour Ferrero, gourmandise égale qualité.
Allez, 5-4, avantage Alcaraz, c'est la numéro 3.
Qui est
ça va être gagnant, c'est fait. Bravo, bravo Carlito, rien à dire. C'est le patron devant Bruce Springsteen, c'est le boss.
Ferrero, la qualité avant tout.
Il récupère la place de numéro 1.
Incroyable.
Il passe à 6-4 et Sinner est à terre. Sinner qui voit sa série de 27 victoires d'affilée sur dur s'interrompt. Il a sourire, Sinner, il ne pouvait rien faire aujourd'hui.
C'est pourquoi chaque été, nous arrêtons de vendre ces produits afin d'éviter que la chaleur n'altère leur qualité.
C'est un service qui est gagnant, c'est un service gagnant. Yannick Sinner remporte son premier Wimbledon. Chapeau Sinner, il a vaincu les démons après ce qui s'est passé à Roland et il détrône Carlos Alcaraz.
Ferrero, créateur de magie.
Eh oui, Ferrero, Juan Carlos Ferrero est un créateur de magie pour faire
le salto. Quand même.
On embrasse bien évidemment toute l'équipe qui prépare cette émission, notamment Kian Verhove à la production. C'est l'information qui a secoué la planète tennis en milieu de semaine. Carlos Alcaraz et son entraîneur Juan Carlos Ferrero, c'est fini. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur collaboration sur les réseaux sociaux. En 7 ans, ils ont remporté ensemble 24 titres, dont 6 en Grand Chelem et la place donc de numéro 1 mondial actuel. Le Murcien de 22 ans travaillait avec Ferrero depuis ses 15 ans. Les GG, je vous pose la question. Donc ce matin, est-ce que vous êtes inquiet pour Carlos Alcaraz, son mentor? J'ai 3 oui, Marion, Jérôme, Fred et Marc qui me dit plutôt non, je suis pas très inquiet pour Alcaraz. T'es d'accord, hein?
Oui.
Tu changes pas. Hein?
Je te dis non.
75% des auditeurs sont d'accord avec toi, Marc, et à ne pas être inquiet pour Alcaraz. Vous votez sur le compte X des GG du sport. On vous attend évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. L'une des voix du tennis sur RMC, Anthony Reich, nous rejoint. Salut Anto.
Bonjour à tous.
Bonjour patron.
Bonjour.
Ouais.
Salut,
Anthony. Ouais. Anthony qui est également notre chef du week-end, sachez-le, sur RMC, et qui, quand Christophe Cessieux fait trop de bruit, nous envoie des messages. Dites-lui de parler moins fort. Anthony, alors, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qui se dit des raisons de la séparation inattendue entre Alcaraz et Ferrero?
Eh bien, cette rupture serait due notamment à la renégociation du contrat de l'entraîneur du numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferrero. Selon le quotidien espagnol Marca, cet accord proposé à Ferrero comprenait une réduction de salaire significative. Pour être plus précis, le salaire de Ferrero était calculé jusqu'à présent sur un pourcentage du prize money gagné sur la saison par Carlos Alcaraz.
C'est bien quand tu gagnes beaucoup.
Là, il y a eu 19 millions de dollars de prize money, donc évidemment une certaine somme assez conséquente pour Ferrero était calculée. Ce pourcentage était donc revu à la baisse dans cette proposition de contrat à l'ancien numéro 1 mondial. Le document comportait aussi plusieurs clauses que Ferrero a jugées inacceptables, mais ce seraient d'autres aspects sans lien direct avec le tennis qui auraient expliqué ce refus. Par exemple, Ferrero aurait reçu ce nouveau contrat samedi matin dernier avec un délai de 48 heures aux allures d'ultimatum pour donner sa réponse définitive. Ensemble, Ferrero et Alcaraz ont remporté 24 titres, dont 6 tournois du Grand Chelem.
Merci Anthony. Voilà, on en sait un peu plus sur ce qui se dit, en tout cas, ou ce que l'on sait autour de cette séparation qui a beaucoup fait parler. Marion, alors toi, t'es inquiète pour Alcaraz après cette information qui a bousculé la planète tennis cette semaine. Pourquoi ?
Alors, je suis à la fois inquiète et j'espère être rassurée dans pas trop longtemps parce que justement, il est en train de chercher quelqu'un qui pourrait remplacer Juan Carlos Ferrero et je vais développer un peu plus tard. Tout d'abord, le timing interroge et interpelle énormément. Il n'y a personne qui décide de changer d'entraîneur un 17 décembre comme ils l'ont fait. Donc ça veut dire que les deux parties étaient certaines de recommencer la saison 2026 ensemble. Si jamais vous commencez à penser qu'un coach ne va pas vous convenir, déjà après l'US Open, vous commencez à réfléchir à des noms potentiels et puis vous signifiez à votre entraîneur à la fin de la saison, donc c'est-à-dire pour Carlos après Turin, puisqu'il n'a pas été capable de, il n'a pas pu, pardon, jouer avec l'Espagne puisqu'il s'est blessé sur la finale de Turin contre Yannick Sinner. Vous lui signifiez la fin du contrat et vous commencez votre pré-saison, donc votre période d'entraînement du mois de décembre pour préparer l'Open d'Australie avec votre nouvel entraîneur. Donc là, aucun de ces steps n'ont été respectés. Ça veut dire que les deux pensaient qu'ils allaient bien évidemment continuer ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, ça s'est interrompu. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelques éléments sur ce qu'a décrit Anthony, qui est effectivement réel, les raisons profondes du fait que Juan Carlos et Carlos ne sont pas arrivés à trouver d'accord ne sont pas uniquement que financières. Il y a en fait un problème sur le calendrier de tournoi choisi par Carlos Alcaraz et par son entourage. Et surtout, beaucoup de matchs exhibition qui ont été rajoutés, là où Juan Carlos Ferrero n'est pas d'accord avec ça. Et je parle de ça parce que ça me paraît important. C'est qu'en fait, après l'US Open, Carlos Alcaraz a décidé de ne pas aller en Asie, de ne pas jouer à tournoi asiatique. Il a ensuite joué une exhibition à Riyad. Il est venu jouer le Rolex Paris Master où il n'était pas du tout en forme, il n'était pas du tout prêt à jouer. Et il va effectivement au Masters de Turin. Il se blesse en finale, il ne peut pas défendre les couleurs de l'Espagne pour la finale de Coupe Davis. Et en fait, Juan Carlos Ferrero lui dit qu'effectivement, il a ses qualités musculaires qui sont exceptionnelles. Il est puissant, il est élastique, il est rapide, il est endurant, il est tout ce que vous voulez. Mais il a tendance à plus se blesser que d'autres joueurs. Et que si donc il fait pas attention à planifier ses plages de récupération réelles et qu'il rajoute exhibition après exhibition dans la période où il doit s'entraîner. Donc là, par exemple, en décembre, il est parti faire deux exhibitions aux États-Unis. Il en a une troisième qui est programmée avec Yannick Sinner à Séoul le 10 janvier. Et que ça, Juan Carlos Ferrero, par son expérience, lui qui a été numéro un mondial et qui a été vainqueur en tournoi Grand Chelem, il n'est pas d'accord avec ça. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à trouver un accord en interne. Là où je me dis plutôt rassuré, c'est que effectivement, il sait très bien que l'entraîneur qu'il a pris actuellement va être que intérimaire, il ne va pas être son entraîneur principal. Qu'il y a le nom de Carlos Moya qui circule, qui a bien sûr
qui a travaillé avec Nadal en plus.
Voilà, au côté Nadal, qu'il a fait gagner le tournoi du Grand Chelem. Il y a David Ferrer qui le connaît très bien, son capitaine de Coupe Davis. Il y a même Rafael Nadal et Roger Federer qui sont des noms qui circulent.
Oh là,
donc,
ça
il va
ça.
De toute façon. Mais de toute façon, Carlos est obligé d'avoir quelqu'un qui l'encadre. C'est quelqu'un qui a un génie pur, mais s'il n'est pas cadré, il faut bien quand même comprendre que Juan Carlos Ferrero lui parle entre chaque point. Entre chaque point, il lui dit ce qu'il doit faire tactiquement, là où il doit jouer, comment il doit s'adapter, s'il doit reculer au retour, avancer au retour, s'il doit servir plus à l'extérieur, plus en kick, plus à plat. Il le coach entre chaque point. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz ne peut pas avoir le même rendement, surtout contre Yannick Sinner. On voit déjà que c'est très limite. À un point près, il perdait la finale de Roland-Garros contre lui. Continuer à être seul, entre guillemets, sur le terrain par uniquement ses qualités, ce n'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il aura l'intelligence de s'encadrer plus, mais il en aura absolument besoin. Sinon, il ne sera pas concurrentiel par rapport à les qualités qu'en sont en train de développer Yannick Sinner, qui s'entraîne tous les jours à Dubaï et que je peux vous dire passe un énorme volume d'entraînement à justement continuer à faire améliorer
son jeu, progresser. Mais quand même, Marion, du coup, l'inquiétude, on peut l'avoir. Alors, je ne sais pas, Jérôme et Fred, puisque vous êtes inquiets dans ce que décrit Marion sur le fait qu'ils ne sont pas tombés d'accord peut-être sur les programmes, sur le fait que peut-être qu'Alcaraz se disperse un peu justement en allant faire des exhibitions. Est-ce que ce n'est pas de nature à inquiéter justement quand on voit que la séparation elle est faite sur attention,
c'est ça
tu vas sur des territoires qui ne sont pas bons.
Moi ce qui m'inquiète déjà c'est l'ultimatum, c'est le fait de dire tu l'envoies comme ça, il faut qu'il réponde en 48 heures, c'est vraiment très particulier comme façon de faire avec quelqu'un avec qui tu travailles depuis 7 ans. Moi je trouve que c'est un peu scandaleux.
Mais avec qui tu as quand même une relation aussi tu es le joueur et tu payes ton entraîneur.
Non mais évidemment.
Une relation, mais il a quasiment une relation de second père. Il faut la ramener
c'est ce que j'allais dire, c'est quasiment un père de substitution. C'est quasiment un père de substitution. Quand tu prends quelqu'un à 15 ans, tu l'amènes à ce niveau-là, en termes de stabilité, surtout quand on a un joueur comme Alcaraz, qui est quand même un peu fantasque, Marion l'a répété, je me dis que ça peut être risqué, parce que oui, tu peux trouver quelqu'un d'autre qui peut te recadrer, mais il y a peut-être un temps de latence, et il y a peut-être une demande de sa part, d'Alcaraz, d'avoir un petit peu moins quelqu'un qui te met la pression, moins un père de substitution, et te laisser un petit peu plus faire la fête, on sait qu'il a un peu cette tendance, se relâcher un petit peu, faire des exhibitions.
Et allons sur vos carrières, peut-être aussi, les gars, pour avoir de la résonance. Toi, Fred, il y a des entraîneurs qui, dans ta carrière, justement, ont été importants, et quand tu changes, c'est pas pareil.
Ben évidemment, il y a des entraîneurs qui sont importants, mais dans le basket, t'as jamais un entraîneur qui te suit de 15 ans à 22 ans, en fait. Ouais. Et donc, encore une fois, je me répète, quand on est un athlète de haut niveau, tu pars très tôt de chez toi, tu cherches cette figure paternelle qui t'accompagne, qui t'aide, qui te guide. Et c'est vrai que se séparer à ce moment-là, et comme Marion l'a très bien expliqué, en fin d'année, sur des conditions comme celle-là, ben moi, je suis désolé, ça m'inquiète un petit peu.
Tiens, en parlant de figure paternelle, quand on arrive dans une équipe, Marc Madio est parfois cette figure-là pour les jeunes qui arrivaient à la FDJ, que tu vois grandir avec toi, et pour qui tu es peut-être parfois aussi un soutien émotionnel et dans la carrière. C'est pas neutre quand même ce qu'on construit avec un jeune coureur.
Ça n'est pas neutre, sauf
que toi, t'es pas inquiet pour Alcaraz.
Je suis pas inquiet parce qu'on n'est pas dans le même schéma que dans d'autres sports. Là, c'est l'entraîné qui paye l'entraîneur. Dans d'autres sports, entre guillemets, c'est l'entraîneur ou le club qui paye l'entraîné. Donc, on n'est pas dans la même relation. Et Moi, je suis pas trop inquiet. Alors, j'ai pas la connaissance que peut avoir Marion de la situation. Moi, je me dis juste que peut-être que pour Alcaraz, le fait de changer d'entraîneur va lui donner un nouveau souffle, va lui ouvrir des portes qu'il avait peut-être pas ouvertes avec son entraîneur précédent, et ça peut le stimuler entre guillemets. Peut-être ouais, que le nouvel entraîneur va l'emmener sur des terrains où n'allait pas le précédent.
Mais c'est vrai. Là où t'as raison, c'est qu'on sent que c'est un joueur. Je pense Marion sera d'accord là-dessus, qui a besoin d'être stimulé.
Donc, je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et encore une fois, l'élément pour moi déterminant, c'est que le rapport de force n'est pas le même que dans d'autres sports traditionnels où, entre guillemets, l'entraîneur représente la structure qui paye l'entraîné. Là, on est dans un schéma totalement inversé puisque c'est l'entraîné qui paye l'entraîneur. Donc, on est dans un rapport de force totalement différent. Donc, moi, je demande à voir, mais je suis pas trop inquiet. Ça peut être stimulant.
Ça peut être stimulant.
Ou ça peut aussi se terminer dans le mur. Oui. Et puis, dans six mois, il reviendra avec son ancien entraîneur.
Dépendre des raisons de son choix et de ce qu'il veut en faire de son entraîneur.
Quelles sont les vraies raisons
Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que cette année de collaboration, de travail, Marion le dit, il l'a amené des juniors au numéro 1 mondial. Alors pourquoi attendre l'hiver pour renégocier?
Oui, c'est ça, c'est très surprenant.
Il y a un pompon dans le jeu de boules, il y a quelque chose qui va pas.
Il y a quoi, pardon?
Il
y a un pompon dans le jeu de boules.
Normalement, c'est pas ce mot-là.
Mais il me semblait important de s'arrêter sur cette expression quand même. Mais vas-y, continue.
En tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. C'est-à-dire que l'échange entre les deux, hors entraîneur-entraîné, est rompu. Moi, j'ai été entraîneur par mon frère. C'est lui qui, à chaque fois que j'ai fait des belles saisons, était mon entraîneur. J'attendais pas le mois d'octobre pour discuter des conditions du contrat. Il n'y en avait pas déjà, mais il y avait. Enfin, tu discutes de ça tout au long de la saison. Donc, à savoir si quand tu changes d'entraîneur, tu as envie de faire ce que tu veux et qu'ils te disent oui à tout. Et là, ça peut être dangereux pour Alcaraz. Soit il va effectivement aller chercher un nouveau souffle. Mais moi, je suis plutôt inquiet dans le sens où cette discussion n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas de transmission entre Ferrero et le prochain. Et surtout, connaissant les petits défauts de Carlos Alcaraz, ça peut être dangereux pour lui. Face à lui, il y a un garçon qui, lui, est dans la rigueur et qui change pas de staff, à part de temps en temps le kiné, parce qu'il peut avoir des soucis. Sinon, l'entraîneur, c'est toujours le même.
Et il le reprend quand même après.
Ouais, il le reprend quand même, ça tourne.
Êtes-vous inquiet pour Carlos Alcaraz?
Moi, je suis plutôt inquiet là, dans le timing et dans la façon dont ça s'est passé.
Je rappelle juste, Marion, avant de donner la parole, ce qu'avait dit Juan Carlos Ferrero dans le documentaire d'Alcaraz sur Netflix. Il avait dit son approche du travail, les sacrifices à faire est différente de la façon dont on travaille. Tellement différente qu'elle me fait parfois douter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devient meilleur joueur de l'histoire. Donc, dans le documentaire sur Alcaraz, il avait déjà envoyé une petite pique Ferrero pour dire, attention, quand même aux limites de sa façon de vivre une carrière de sportif de haut niveau, Marion.
Non, je suis totalement d'accord. Et pour revenir sur ce qu'a dit Marc, ce qui était très intéressant d'ailleurs, Tony Nadal s'est totalement exprimé là-dessus et dit exactement
l'oncle
ce que tu
dis. L'oncle de Rafa qui était son entraîneur.
Voilà. Les relations dans le monde du tennis sont difficiles car celui qui paie, c'est-à-dire le joueur, paie généralement pour entendre ce qu'il veut entendre. Pour moi, c'était facile de dire à Rafa les choses qu'il n'aimait pas entendre parce que c'est différent, c'était mon neveu, il ne me payait pas. Et en fait, là, le problème, et j'en reviens totalement à ce qui a été dit dans le documentaire par Juan Carlos et ce qui a été dit par Jérôme aussi, c'est que je pense que beaucoup de gens autour de Carlos Alcaraz, pour pas perdre leur poste, lui disent ce qu'ils veulent entendre. Et que Juan Carlos Ferrero avait effectivement ce recul par sa position, par le fait que lui-même était joueur numéro un mondial et qu'il attendait pas forcément qu'après Carlos Alcaraz pour vivre, en lui disant les choses qu'il fallait lui dire. Mais il a aussi laissé une porte ouverte, puisqu'il a déclaré aujourd'hui un chapitre très important de ma vie prend fin. J'aurais aimé pouvoir continuer. Je suis convaincue que les personnes trouvent toujours le moyen de se recroiser.
C'est ça qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les six premiers mois, ça va tâtonner. Il va y avoir des noms qui vont circuler, etc. Qui va reprendre le poste, qui va pas le prendre. Bon, bien sûr, entraîner un génie comme Alcaraz, il va pas essuyer beaucoup de refus. Si la personne qui prend, ça ne fonctionne pas pour X, Y, Z raison, et que c'est Sinner qui commence à prendre les deux premiers grands chelems de la saison, c'est-à-dire l'Australie où il est archi-favori, éventuellement Roland Garros parce qu'il était qu'à un point, il va rappeler Juan Carlos, courant. C'est l'évidence. Donc, en fait, si tu veux, moi, je m'inquiète, mais de manière plutôt, on va dire, pondérée, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des qualités au départ qui sont exceptionnel, mais il a besoin d'avoir un cadrage parce que
après,
c'est
après
quelqu'un
nous,
qui peut
Marion...
arrêter le tennis comme Borg à 25 ans. Ouais, ben voilà. Et Marion, bien sûr qu'on a un génie, qu'on n'a pas envie de ça. On a envie qu'il continue pendant très très longtemps.
Nous, on a le logiciel processeur Federer, Djokovic, Nadal. Mais est-ce que Alcaraz a vraiment envie de rentrer dans ces carcans-là ? Est-ce qu'il a envie de faire carrière, Alcaraz ?
Et en fait, il a pas envie. Enfin, je pense que quand on comprend bien dans son documentaire, notamment, qu'il ne veut pas être comparé, en tout cas dans la vie monacale, peut-être à Federer,
lui,
Nadal et Djokovic.
Peut-être le choix d'une carrière. Il veut faire son jeune carrière, mais faire aussi sa vie jeune.
Exactement.
Il veut pas être
bien évidemment un immense compétiteur et qu'ils vont se tirer la bourre pendant des années parce que quand Nova, qui peut être le seul on va dire maintenant encore à pouvoir éventuellement les challenger, mais quand Nova va arrêter d'ici peu, ils vont être vraiment les deux seuls, et que s'il voit Yannick Sinner s'envoler, il va se dire attends, moi aussi j'ai envie d'en prendre. Donc ils nous ont donné cette année 3 finales de Grand Chelem quand même, les uns contre les autres. Je vais vous donner juste une micro stat qui va vous intéresser. Ils ont gagné exactement le même nombre de points à 50% chacun cumulé sur les 3 finales de Grand Chelem. Tu le crois ça?
Ah bah c'est une grosse stat. Une grosse stat, parce qu'une micro stat, ça aurait été. Il a fait une faute dans un match, tu vois. Là, ça, c'est quand même.
Il y a 0 point d'écart.
Après, Marion, sur ta dernière. Ce que tu viens de dire, moi, je suis d'accord avec toi, sauf que je pense qu'il a envie de le battre, mais il y a une différence entre envie de le battre et vouloir être lui. Moi, je pense qu'Alcaraz, il a pas du tout envie d'être Sinner. Hein. C'est pas du tout son délire. Ouais,
je pense que le seul qui avait la capacité.
Pour le battre, il faut faire les efforts nécessaires.
Le seul qui avait la capacité à lui imposer des choses, à mon avis, c'est Ferrero, justement. Comme il l'a connu jeune. C'est pour ça qu'il le change. Parce que justement, maintenant, il a envie. En fait, dans le rapport de force que vous expliquiez, où l'entraîné était le patron de l'entraîneur, je pense que c'est un peu trop équilibré à son goût dans cette relation. Où justement, les deux avaient à peu près la même valeur, parce qu'il y en avait un qui était très bon joueur de tennis avant, mais surtout il y en avait un qui l'avait pris à 15 ans.
C'est des discussions. Et donc, il avait un nouveau, il fallait, en fait. le choix du successeur de Ferrero va être déterminant et sera très très instructif. Exactement. Sur la situation.
Bien sûr. Effectivement.
C'est une vraie problématique. Marc parle de sa structure et de dire que aujourd'hui l'entraîneur et l'athlète est payé par l'entraîneur parce que l'entraîneur est salarié d'une structure. C'est pas le cas dans toutes les structures. Pour avoir longtemps discuté et échangé sur les possibles changements dans une structure française au nord de la France, on citera pas le nom, l'équipe Cofidis, qui a changé de manager et qui pense avoir tout changé, les leaders payent leurs entraîneurs. Les leaders de cette équipe étaient encore avec des entraîneurs privés. Bon, ça peut pas marcher, parce que le jour où t'as plus envie d'y aller, tu dis au mec, c'est moi qui te paye, donc aujourd'hui je vais pas aller m'entraîner.
Êtes-vous inquiet pour Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial de tennis, qui donc s'est séparé de son entraîneur de toujours, Juan Carlos Ferrero? Tiens, on a Lionel, un habitué des grandes gueules du sport, qui nous appelle au 32-16. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
Lionel, t'es inquiet toi pour Carlitos, le fait qu'il ne soit plus avec sa figure paternelle, son maestro, effectivement?
Alors, prime abord, inquiet, on est obligé d'être inquiet, parce qu'ils ont fait une longue aventure, parce que ils ont tout gagné ensemble, ils ont je pense qu'il est plus proche pendant le tennis. Il s'est même plaint deux, trois fois, et je pense que c'est un des problèmes contractuels, quand il ne suivait pas dans certains tournois. Maintenant, pourquoi pas? Parce qu'ils ont un rapport père-fils, quelquefois, peut-être que le message passe moins, et que c'est des discussions. Parce que je pense que son gros problème à Alcaraz, politiquement, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la maturité, il y a encore du taf. Quand on le compare à Sinner, on a l'impression qu'il y en a un, c'est un homme d'affaires dans son travail, l'autre, c'est un gamin qui attend la récré à des moments. Mais par contre, techniquement, c'est le meilleur au monde. Alors peut-être un électrochoc, peut-être qu'une rencontre, peut-être un autre discours à lui de pas mettre comme dans les clubs de foot l'entraîneur remplaçant, parce que ça servira à rien. Par contre, s'il a un grand nom, s'il a un gars qui lui en impose un peu, peut-être que ça peut être un électrochoc.
Ouais.
Au prime abord, j'ai peur des conséquences sur les premiers mois.
Même si Ferrero
un électrochoc, il gagne deux grands chelems comme cette année.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on va le voir aussi.
Il fait quand même une saison monstrueuse, il est numéro un mondial de grands chelems.
Le souci, c'est que il a pas qu'un adversaire. Sinner, quand il rentre sur les terrains, à part tomber sur un Dimitrov en chaleur, il n'y a qu'un adversaire, il faut battre Alcaraz. Lui, il peut passer à côté d'un match contre un mec comme Zverev, qui prend des fessées contre Sinner. Donc lui, il fait une saison extraordinaire, mais il n'est pas à l'abri de sortir d'un match. Je veux dire, son premier tour contre Nori, à Bercy, il est pathétique. Schneider,
oui, bien sûr, mais il y a premier tour contre Goffin et Miami, il y en a d'autres.
Hein, oui, et puis même la finale.
Bon, il y a quand même une régularité sur l'année qui est quand même monumentale.
Et puis même la finale de tu le disais tout à l'heure, Marion, la finale du Masters à Turin, voilà, il est dominé par Schneider. Mais il est là quand même, et parce que là, il y a le jeu des comparaisons avec Schneider qui fait qu'on est, on parlait de Mbappé tout à l'heure, très exigeant avec Carlos Alcaraz. Merci Lionel de nous avoir appelé au 32-16 pour parler, eh bien, d'Alcaraz, qu'on attend évidemment sur le premier grand chelem de la saison à l'Open d'Australie qui débutera le 18 janvier. C'est le seul grand chelem qu'il n'a pas remporté dans sa carrière. Donc,
c'est celui qu'il aime le moins. Non, mais
t'imagines, il y va sans coach et il le gagne. On dira, bon, en fait, il a besoin de personne, Alcaraz. Ben, vas-y, prends les balles.
Il est perdu sur Novak en début d'année.
Ouais, effectivement. Merci, Anthony Arèche, d'avoir été avec nous. Merci, chef.